Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'environnement. La publicité est partout, dans la rue, dans nos journaux, à la télé, pour le meilleur et pour le pire. Jacques Séguéla, célèbre publicitaire français.
Les écologistes ne pensent toujours qu'à eux, ou ils ne pensent qu'à la nature. Mais la nature, il faut qu'elle accepte la vie, il faut qu'elle accepte la modernité, il faut qu'elle accepte le futur, le mouvement et donc la pub.
Bravo Jacques Séguéla. De nombreuses entreprises utilisent l'argument écologique pour vendre leurs produits et bien souvent, ce ne sont pas les plus vertueuses. Comment juger de la pertinence d'un message publicitaire en matière environnementale? La publicité et l'environnement sont-ils compatibles? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de l'émission avec Jacques-Olivier Barthes, membre fondateur de l'Observatoire indépendant de la publicité, et Laurent Théris, président de l'Agence Limite et fondateur du collectif publicitaire éco-socio-innovant.
Vous n'en avez pas marre qu'on vous patine avec le développement durable, la protection de la planète?
Non.
Vous fasse peser un
non.
Peu.
Non. Heureusement qu'on nous bassine avec ça. Parce que c'est déjà la merde, alors si on nous bassinait pas, ça serait quoi?
Alors, on commence cette première partie par un tour de l'actualité environnementale. On attend José Bové, le syndicaliste et agriculteur engagé, qui devrait arriver. Il est actuellement bloqué dans les transports parisiens, mais son arrivée n'est qu'une question de minutes. Donc, on va démarrer cette émission avec un tour de l'actualité environnementale et bien d'une partie du monde. Et aujourd'hui, c'est l'Europe.
Bonjour, Heike Schmidt.
Oui, bonjour.
Vous voulez commencer par une devinette?
Oui, et la question est très simple. Alors, qui voyage le plus parmi les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne? Vous le savez?
Nicolas Sarkozy.
Oh, c'est bien, mais c'est vrai aussi que c'était un peu facile. C'est effectivement Nicolas Sarkozy, président hyperactif qui n'arrête pas de parcourir la planète pour faire entendre la voix de la France et de l'Europe, bien sûr. En distance parcourue, il a accumulé 324 000 kilomètres en 2008, ce qui le place loin devant ses partenaires. Angela Merkel, par exemple, la chancelière allemande, n'a que 175 000 kilomètres à son actif, tout comme le chef du gouvernement espagnol José Luis Zapatero. Et Gordon Brown, le britannique, eh bien lui a fait moitié moins que le président français. Alors, qui dit distance parcourue dit environnement pollué, car nos dirigeants n'ont pas de temps à perdre et prennent donc l'avion pour se déplacer dans le monde. L'avion qui reste toujours l'un des moyens de transport les plus émetteurs de carbone.
Et pour autant, ce n'est pas celui que l'on croit qui pollue le plus.
Eh bien non, en effet, ce n'est pas le président français, c'est Gordon Brown, le mauvais élève de l'Union européenne. Selon le mensuel Terra Eco, le premier ministre britannique a l'empreinte carbone la plus élevée des principaux dirigeants européens. L'année dernière, Brown a émis plus de 8 400 tonnes, équivalent CO2, lors de ses voyages officiels. Il faut savoir que plus l'avion utilisé est gros et plus il est vieux, eh bien plus il émet de CO2.
Et qui gagne le prix du dirigeant le plus propre?
Bon, la palme du dirigeant le moins polluant va en Espagne pour l'année 2008. En tout cas, José Luis Zapatero présente l'empreinte carbone la plus faible des quatre, avec 6 700 tonnes. Reste le président Sarkozy, champion des voyages officiels, qui se situe au bon milieu avec 7 100 tonnes. Il peut d'ailleurs se frotter les mains grâce à l'Airbus 319 aménagé pour lui. Il pollue moins l'environnement que Angela Merkel. Mais le bilan risque d'être moins flatteur pour le président français en 2009, car pour éviter les escales sur les longues distances, Paris a récemment acheté un Airbus A330, ce qui devrait alourdir la facture écologique l'année prochaine.
Oui, ces calculs ne tiennent pas compte des avions de journalistes qui suivent souvent les déplacements des présidents. Non. Alors, autre nouvelle de la semaine en Europe, le Parlement européen veut mieux protéger les phoques. Les députés ont fait un pas vers une interdiction de la commercialisation des produits dérivés du phoque.
C'est un petit pas pour l'instant. La commission spécialisée sur le marché intérieur a voté à 25 voix contre 7 pour cette interdiction. C'est donc une première étape qui devra encore être confirmée par l'ensemble du Parlement. Et si tout va bien, ce sera début avril. Vous savez que la protection de ces mammifères marins très mignons est le combat phare de l'actrice Brigitte Bardot, grande protectrice des animaux. Sa fondation a salué immédiatement le vote des eurodéputés.
Écoutez, Christophe Marie, l'un des responsables de la Fondation Bardot.
Nous
sommes tout à fait contents du résultat du vote parce qu'initialement, il y avait des dérogations qui étaient prévues et contre lesquelles nous nous opposions. Et c'est des dérogations qui concernaient le maintien de la chasse et le maintien du commerce à partir du moment où les autorités canadiennes pouvaient démontrer que cette chasse était non cruelle. Et en fait, ça fait 40 ans que les autorités canadiennes nous disent que leur chasse au phoque n'est pas cruelle et ça fait 40 ans qu'on a la preuve du contraire. Donc il fallait impérativement que le Parlement se positionne très fermement et ça a été fait puisqu'il y a eu un amendement qui a été adopté qui rejetait toutes les propositions de dérogation hormis les dérogations pour les populations inuites et qui concernent une chasse de subsistance et contre laquelle nous n'avons jamais été opposés. C'est pas du tout dans les mêmes proportions et encore une fois il s'agit de populations qui dépendent directement de cette chasse-là. Ce que nous dénonçons très fermement c'est le commerce international, la chasse qui couvre les marchés de la fourrure notamment, principalement. Et cette chasse-là va être mise à mal avec la décision européenne.
Eh bien, le pays le plus touché par cette mesure européenne sera le Canada. Selon Christophe Marie, l'Europe est bien la destination numéro un pour les peaux traitées. Et si le Parlement européen confirme l'initiative, les produits dérivés du phoque ne pourront plus être importés par les pays membres de l'Union européenne. Ils ne pourront même plus transiter par leur territoire. Ottawa a déjà réagi. Le gouvernement canadien se dit déçu et annonce vouloir consulter tous les gouvernements concernés pour les convaincre que la chasse aux phoques canadienne est sans cruauté.
Et pour finir, une bonne nouvelle pour la Hongrie et l'Autriche concernant les OGM. Les 27 ont refusé lundi de forcer les deux pays à cultiver un maïs génétiquement modifié de la firme américaine Monsanto.
Oui, et cela veut dire que les Autrichiens et les Hongrois peuvent garder leur clause de sauvegarde par souci pour l'environnement et la santé publique. En fait, c'est la Commission européenne qui avait demandé aux deux pays de lever leur refus de cultiver ce maïs génétiquement modifié, mais seulement 5 pays sur 27 ont soutenu cette demande de Bruxelles. Pour le ministre autrichien de l'Environnement, il s'agit là d'une victoire historique. C'est comme si l'Autriche était devenue championne d'Europe de football, s'est réjoui Nikolaos Berlakovic. Pour la France et pour la Grèce, cet échec de la Commission européenne est également une bonne nouvelle. Les deux pays peuvent maintenant espérer que leurs interdictions de cultiver ce maïs pourront être maintenus et les pays membres savent très bien que les OGM restent très controversés et 3 mois avant les élections européennes, ils n'ont aucun intérêt à braquer l'opinion sur un tel sujet, un tel sensible.
Merci Heike Schmidt.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras, Arnaud Jouve.
Oui, le grand genio del mio amico. Lui saprebbe quand vite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, pare sì,
dans C'est pas du vent sur RFI. Et ça y est, nous avons récupéré José Bové, lâché par les transports parisiens capricieux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes syndicaliste, agriculteur engagé. Vous avez été candidat aux élections présidentielles en 2007. On vous connaît pour vos actions médiatiques contre les OGM. Aujourd'hui, vous êtes tête de liste de la circonscription sud-ouest de la France pour le Rassemblement Europe Écologique dans le cadre des élections européennes 2009.
Tout à fait. Tout ça, il n'y a rien de faux dans tout ça.
Bon alors, pour vous faire réagir un petit peu à cette actualité du jour, on vous propose donc un certain nombre de petites dépêches. Alors, pour alerter les consommateurs sur les dangers des toxiques dans notre environnement et pour peser sur les politiques publiques, des scientifiques, des associations de défense de l'environnement et de défense des malades viennent de lancer le réseau Environnement Santé. Le toxicologue André Chicolella, qui est à l'initiative de ce réseau, était venu nous en parler dans cette émission il y a quelque temps. Et il nous avait expliqué que sur plus de 100 000 produits chimiques en circulation, seulement 3% sont documentés en termes de risques toxiques. Et on ne sait absolument rien du mélange de ces différentes substances. C'est quelque chose qui vous surprend ?
Effectivement, ce qui a été très curieux, c'est qu'en fait, quand il y a eu des analyses de mise en marché de tous ces produits, il y a une analyse et produit par produit. Alors ça a été plus ou moins sérieux, c'est vrai que la plupart du temps ce sont les laboratoires eux-mêmes, les entreprises qui mettent des produits sur le marché, qui donnent les éléments d'analyse du produit. Donc ça c'est assez étonnant le système. Mais par contre ce qui n'a jamais effectivement été étudié, ce sont les cocktails. Tous les cocktails de pesticides ou tous les cocktails de produits chimiques, on se rend compte maintenant année après année qu'en fait les doses qu'on pensait dangereuses, en fait, sont beaucoup plus basses et qu'on a effectivement des risques graves en termes de perturbations de produits cancérigènes sur des doses très minimes. Mais avec les cocktails et sur des longues durées, c'est très explosif et c'est effectivement un des problèmes majeurs de santé publique auquel on va être confronté.
Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'au niveau européen, on a une véritable épidémie de cancer et que c'est probablement à relayer avec cette dégradation de l'environnement.
Alors, ou c'est directement cancérigène, ou ça favorise effectivement la multiplication des cellules. Effectivement, là, c'est un vrai problème de santé. On a la même chose, par exemple, avec l'histoire du PCB dans le Rhône, où aujourd'hui, on se rend compte que tout le Rhône est pollué. Mais combien de gens ont été touchés parce que les pêcheurs du dimanche qui ont pêché du poisson? Mais tout ça, c'est arrivé en bout de chaîne dans les organismes humains.
Alors, autre sujet dans l'actualité, l'Union européenne va imposer des taxes à des fabricants américains de biodiesel, soupçonnés de subventionner de manière déloyale leurs exportations. Il faut préciser que le biodiesel représente 80% de la production totale de biocarburants dans l'Union européenne. Alors, ces taxes devraient être mises en place mi-mars. Elles devraient envenimer davantage le climat commercial déjà un peu tendu avec les États-Unis. Washington a porté plainte en janvier contre l'Union européenne devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, parce que les Européens refusent d'importer les volailles américaines au motif qu'elles sont désinfectées avec du chlore. Les États-Unis viennent aussi de tripler les droits de douane sur le Roquefort pour répondre à l'interdiction de la commercialisation du bœuf américain aux hormones. Ça, c'est une histoire qui dure depuis 10 ans et que vous suivez attentivement, José Bové.
Effectivement, je suis ça depuis 10 ans, puisque cette histoire est très emblématique dans la mesure où, pour la première fois, l'Union européenne avait pris une décision d'interdiction de l'utilisation des hormones dans l'élevage en 1989, 9 ans après le boycott du veau aux hormones en France. Et ça, il faut se rappeler de cette affaire en 1980. Donc, on a eu une décision où, pour la première fois, tous les pays européens se mettent d'accord pour dire ces produits sont dangereux, il y a des risques cancérigènes et c'est aberrant dans l'élevage. C'était logique que l'Europe refuse l'importation. Pourquoi est-ce qu'il fallait que l'Europe accepte l'importation? C'est parce que les règles de l'Organisation mondiale du commerce disent que pour chaque produit qu'on consomme sur notre marché intérieur, on est obligé, même si on est autosuffisant, d'en importer 5% de l'extérieur. Et au nom de cette obligation d'ouverture des marchés, on se retrouve à être obligé de consommer ce bœuf aux hormones, ce qui est une aberration totale. Et là, on a soutenu l'Union européenne, on continue à soutenir l'Union européenne, parce que là, pour une première fois, l'Europe, là, véritablement, sert à quelque chose en affirmant un projet face à cette logique complètement libérale à laquelle on assiste malheureusement aujourd'hui. Alors là, pour la première fois, ça fonctionne. De la même manière, ça a fonctionné en début de semaine, pour les OGM, où pour la première fois, il n'y a que 4 pays qui ont soutenu la Commission dans l'affaire du moratoire des OGM de la Hongrie et de l'Autriche. Donc, il y a des bonnes nouvelles.
Après avoir soutenu le moratoire de la France et de la Grèce.
Voilà. Oui, alors justement, on voulait vous entendre un petit peu sur ce dossier OGM que vous suivez bien. Alors, c'est une bonne nouvelle, de votre point de vue.
Il faut se rappeler qu'il y a 6 mois environ, le président Barroso a tenté d'organiser un espèce de pool de lobbying pro-OGM en demandant à chaque gouvernement de lui amener les meilleurs éléments pour pouvoir contraindre les gouvernements qui refusaient. Et puis là, il a tout mis dans la bataille, c'est-à-dire qu'il y a l'affaire des moratoires. Alors, il y avait quatre pays qui étaient sur la sellette, la Grèce, la France, l'Autriche et la Hongrie. Donc, on a gagné la première partie pour la France, mais c'était en commission, un petit comité. Et puis, pour pour la Hongrie et l'Autriche, là, c'est passé devant le Conseil des ministres. Et là, ça a été très intéressant parce que Barroso n'a été soutenu que par quatre pays. Donc, pour la première fois, au lieu d'avoir des pays qui s'abstiennent, ce qui fait qu'on est sur des majorités un peu bâtardes, là, on a eu une majorité de pays très large, puisqu'il n'y a eu que quatre pays qui ont soutenu la commission qui avait mis tout son poids dans la bataille. C'est une inversion, véritablement. Et là, maintenant, la vraie question se pose. Bon, bien sûr, la France, je pense, au mois de mars, on devrait avoir la même majorité pour soutenir le moratoire français, mais il faut remettre en cause à la fois les prises de position de la Commission qui sont systématiquement en faveur des OGM pour la même raison que l'affaire, les autres affaires de commerce, c'est qu'en fait, ils ont peur d'un nouveau procès devant l'Organisation mondiale du commerce. Donc, on est complètement tétanisé. La Commission est tétanisée par le fait de pouvoir être à nouveau attaquée par les États-Unis sur un nouveau dossier.
L'Europe est vraiment en pointe sur ce débat au niveau international ?
En tout cas, l'Europe, c'est le marché pour les grandes firmes. Si on ne peut pas développer les OGM aujourd'hui sur un territoire où il y a du répondant financier, il n'y a pas de marché pour les OGM. Donc, ils ont fait le plein, si on peut dire, en Amérique du Nord et en partie, malheureusement, en Amérique du Sud. Le grand marché solvable, c'est l'Europe. Pour l'instant, le reste, c'est peanuts. Donc, ce qui est important pour eux, c'est de gagner le marché. Le fait que la France ait mis en place le moratoire, c'est central. Parce que, par exemple, sur la production de maïs, la France, c'est 3 millions d'hectares de maïs. Donc, si on résiste en France, eh bien, on ouvre la porte. Et ça va peut-être permettre à l'Espagne, maintenant, de sortir de cette logique OGM. C'est ce qu'on espère.
Alors, on le disait quand vous êtes arrivé, hein, José Bové. Aujourd'hui, vous êtes en campagne, hein, puisque vous êtes tête de liste de la circonscription sud-ouest de la France pour le Rassemblement Europe Écologie. Donc les élections européennes, c'est en juin 2009, en juin prochain. Comment se passe cette campagne pour justement les écologistes et pour vous ?
Elle se passe plutôt pas mal. En plus, c'est vrai qu'on a eu la chance de réussir quelque chose que les gens, auquel beaucoup de gens, d'observateurs ne s'attendaient pas, c'est le rassemblement. Le fait de faire travailler ensemble les gens qui étaient engagés chez les Verts en politique, des gens du milieu associatif très variés, puisqu'on a des gens qui viennent à la fois de Greenpeace, de France Nature Environnement, des proches de Nicolas Hulot, et puis des gens qui étaient inscrits dans les mouvements sociaux anti-nucléaire, anti-OGM, ou dans le syndicalisme comme moi, ou comme François Dufour dans le nord-ouest de la France. Donc voilà, on a fait ce rassemblement, et je pense que c'est ça qui est positif et qui crée la dynamique.
Et ben vous reviendrez à nous en reparler dans l'émission plus
merci,
longuement cette
José
fois.
Bové.
Merci José Bové. C'est pas du vent, on revient juste après un rappel de l'actualité, nous parlerons de la publicité de ses travers. À tout de suite.